quand vous parlez de milieux sonores, d'équipes médiales, là je pense à des personnes qui ont des problèmes visuels, qui sont aveugles. Est-ce que vous pensez que l'équipe médiale est quelque chose qu'on peut ne pas faire, oublier de faire?
Je pense que l'écoute médiale consiste à oublier, mais de faire, je ne sais pas ce que vous voulez dire, à oublier d'écouter. Donc je pense
pense à l'inverse, à quelqu'un qui ne peut pas oublier d'écouter.
D'accord. Est-ce qu'un aveugle a encore une écoute médiale? Paradoxalement, oui. Je pense, oui, je suis sûr. Et même s'il n'en a pas, il meurt. C'est-à-dire que, par contre, il a une écoute environnementale beaucoup plus active, mais aussi beaucoup plus focalisée sur certaines choses et qui sont vraiment liées à des questions complètement concrètes et pragmatiques de survie. Du coup, il a certainement une oreille environnementale qui est beaucoup plus... Alors, j'allais dire plus construite, mais je ne pense pas qu'elle soit plus... Elle est focalisée sur d'autres choses que nos écoutes environnementales à nous. Mais je pense que les trois écoutes sont toujours coprésentes pour tout le monde. Je prétends que ce sont des universels.
Mais pourquoi il meurt?
Non, je dis meurt métaphoriquement un peu. Mais parce que je pense qu'il a tellement d'informations... Et je pense que ce n'est pas propre à l'aveugle. Je pense que la situation de l'aveugle n'est pas différente de ce point de vue-là de la situation de quelqu'un qui est voyant. Le rapport entre l'écoute environnementale, l'écoute médiale et l'écoute paysagère, il est lié à un certain équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en faisant attention à chaque son qui est émis. Donc on a besoin d'en effacer pour pouvoir se focaliser sur d'autres. Et je pense que chez l'aveugle, il y a énormément de sons qu'il n'entend plus parce qu'il sait que, voilà, même dans ses cheminements, par exemple, il nous racontait souvent ça. Ce qui m'avait le plus frappé, on avait deux aveugles à Lausanne qui avaient écouté les 10 fragments lausannois. Et donc il y avait très peu d'espace qu'ils connaissaient. Parce qu'en fait, ils expliquent qu'ils vont que sur des lieux qu'ils connaissent, quoi, qu'ils ont répété, ils ne partent pas à l'aventure, et ils n'ont pas une oreille telle qui leur permette de marcher n'importe où, etc. C'est pas vrai, quoi. Par contre, ils se repèrent, ils recherchent les étapes de leur cheminement, quoi. On les voit bien, quand ils tapent, ils cherchent le bord du trottoir, hop, ça y est, ils s'engagent. Puis tant qu'ils n'ont pas trouvé tel repère, ils hésitent, puis ensuite ils foncent, etc. Et moi, ça m'a beaucoup frappé s'ils disaient... Dans la ville, ce que je cherche, c'est les murs. C'est-à-dire qu'il s'appuie contre un mur qui, en fait, est un mur sonore, parce qu'il ne le voit pas. Mais parce que, et moi, j'ai fait après des exercices sous bandeau, où j'ai, quand je m'intéressais beaucoup à ces choses-là, j'y étais attentif, et j'y suis toujours. Je le perçois souvent, c'est que quand on a un mur long sur une rue, avec le trottoir ouvert, et qu'on est à une certaine distance, on entend très bien qu'il y a un retour sonore, si on y est attentif. Alors ça, pour nous, c'est vraiment être attentif et se mettre dans une écoute environnementale. Pour lui, quand il se cale là, je suis sûr que ça y est, il se cale et il n'y pense absolument plus. Et c'est son milieu sonore. Il s'appuie contre le mur. Puis, si jamais le mur, il a été démoli la veille, alors là, tout à coup, il va se réveiller, quoi. Mais du coup, suivant les situations ou handicaps, peut-être que les capacités ou les situations dans lesquelles on bascule d'une écoute à une autre peuvent s'inverser. Je ferai cette hypothèse-là, il faudrait vérifier, évidemment. Mais moi, je sais que si je m'appuie contre un mur sonore, je fais attention à cet effet de mur sonore parce que des aveugles m'ont expliqué ça, je le perçois, encore en voyant, en regardant, mais il faut que j'y sois attentif. Si j'y pense pas, je ne perçois pas. Alors que pour lui, c'est sûrement le contraire. Ils ne veulent percevoir que si ça s'effondre.
J'ai un peu là, vous parlez de basculement, moi j'ai l'impression que ça veut dire qu'elles sont assez simultanées. Si par exemple, je prends l'exemple du créneau, je trouve flamand, on va porter l'attention sur ce créneau-là, mais en même temps, du coup, on va lier les choses qui se passent en même temps. On ne peut pas écouter tous les sons.
Exactement.
On fait des choix qui font que. répartition de ces trois écoutes.
Exactement. Moi, je dis toujours, elles sont co-présentes. Et c'est ça qui fait sens, qui fait le sens de la vie, de l'acte, de ce que je suis en train de faire, etc. Et alors, elles sont co-présentes, mais évidemment, dès qu'on y réfléchit, dès qu'on essaye d'observer le phénomène, ou bien de créer un paysage sonore, ben, on est obligé de prendre conscience, et ça devient un outil pour penser cette articulation-là. Et on voit bien que dans certaines situations, telle ou telle écoute prend le dessus sur l'autre mode. Quoi.
Oui, parce qu'au final, on peut écouter tout à la fois, mais si j'écoute le projecteur en même temps que les sons dans la pièce pendant que vous parlez, je comprends un peu moins ce que vous dites, par exemple.
Voilà.
C'est plus difficile de focaliser sur un mode.
Exactement. Ouais. Exactement.
Donc c'est tout le temps des allers-retours. Ouais.
Et on fait, nous on dit, on fait synecdoque. Alors qu'il y a un usage faux d'un effet défini. L'effet de synecdoque, c'est l'idée que c'est cette capacité, par exemple, tout à coup vous êtes dans un bistrot, il y a du monde et tout ça, et puis tout à coup vous entendez distinctement la conversation de la fille qui vous plaît là, de l'autre côté, ou du garçon, ou bien une histoire, un truc qui et dans un brouhaha incroyable, vous arrivez à entendre, mais vraiment distinctement. Ben, c'est bien une écoute. En même temps, ça ne fait effet que si ce n'est pas seulement une écoute active. C'est justement la rencontre entre quelque chose qui arrive à votre oreille, qui est peut-être plutôt de l'ordre du paysage, parce que ça flotte. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui vous capte, et là, vous vous mettez à l'écoute. Donc, vous basculez d'une écoute paysagère à une écoute environnementale qui va chercher l'info par curiosité. Vous tendez l'oreille, vous vous mettez à écouter ce que vous ne faisiez qu'entendre.
Ça arrive avec la musique aussi, des fois.
Bien sûr.
On l'écoute, puis on l'oublie, puis là, il y a un événement qui fait que ça nous revient en pleine face.
Bien sûr, exactement. Je pense que la musique, les musiques prégnantes sont probablement celles dans lesquelles il y a ces jeux de bascule. Qui font partie des règles de composition. Ça peut peut-être être une façon de dire les principes de composition.
Ouais, de jouer des dynamiques d'écoute. Ouais.
Tu peux en plus, même, je ne sais pas si tu écoutes un orchestre, porter ton attention sur certains instruments en particulier. C'est pour ça que ça a un chance que vous disiez sur écouter quelque chose des dizaines de fois, ouais. Et puis de se rendre compte au bout de la centième fois, j'avais parlé de ce truc-là.
On peut revenir aussi sur l'idée que tu as énoncée au tout début sur le fait que justement la dimension médiale serait par nature rétive à être saisie, captée pour être justement remis dans une carte postale sonore, par exemple. Comment on peut dépasser en fait ce. Parce que moi, il y a une chose, ce modèle que j'ai utilisé, réutilisé, que j'essaie de rendre opératoire dans le projet, quand tu dis justement la dimension médiale est il y a une sorte de passivité. Ça me gêne un peu. C'est juste vraiment un élément qui me gêne parce que je pense qu'au contraire, c'est peut-être la forme la plus interactive où justement la dimension action peut avoir du sens dans le rapport qu'on va pouvoir établir avec un environnement existant pour pouvoir le transformer, etc. Donc, il y a ce côté. Alors, écoute flottant, je comprends bien, mais écoute passive, je trouve que c'est un peu gênant, en fait, quelque part, parce que justement, je trouve que. En allant vers la fusion, c'est ce qu'on cherche tous quand on veut justement mieux concevoir pour les autres, etc., en disant je vais dans le relationnel et je pousse jusqu'au bout la conception pour qu'elle soit au plus proche de ce que les gens vivent. Et je trouve que du coup, de parler de passivité dans ce cas-là, ça me semble être un peu contradictoire avec le fait que ça puisse être opératoire dans un mode de création. Mais
quand je dis passive, c'est vraiment l'oreille,
ouais, c'est l'oreille
qui est passive. Mais c'est une écoute en acte. Et c'est parce que je suis en acte que je n'entends pas ce qui m'arrive à l'oreille. Quoi.
Dans cette perspective-là, alors, Pascal, passif serait synonyme d'infra, en fond. D'accord ?
Infra, comment ?
Pourquoi ? Oui, une infra-écoute, finalement. Une écoute infra... souterraine dégagée de mes
études. Infra dans un gradient de conscience.
Oui.
Oui, d'accord.
Oui, c'est ça, oui.
C'est la moins consciente.
J'accepterai cette synonymie, donc. Oui.
Oui, 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 si c'est vraiment par rapport à un degré de conscience,
oui,
parce
oui,
que sinon je ne veux pas mettre un fra le médial par rapport à l'environnement ou le truc, au contraire,
oui,
la représentation triangulaire, elle essaie de mettre à plat. Il n'y a pas d'ordre. Il y a pas de...
Mais est-ce que si c'est la moins consciente, est-ce que c'est pour autant la plus globale?
Non, qu'est-ce que tu veux dire par global?
Bah, parce que moi,
dans
je représente non, mais les capacités de l'oreille, ouais, entre la globalité, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des sons, se focaliser micro ou micro-écoute, ou bien une écoute, en gros, je sais qu'on peut... Enfin, en tout cas, il y a le macro-micro, on peut comprendre ce que ça veut dire pour physiquement les capacités
pas.
De l'oreille.
Ouais, je sais pas.
Ouais. Non
ouais. Micro, je vois assez bien, mais... Je pense qu'on est piégé par le fait que ça a l'air d'être le grand et le petit.
Ou l'idée de Pauline Oliveros de l'écoute inclusive, peut-être, de vraiment peindre tous les sons et pas faire de
oui,
tri.
Oui, oui, plutôt, de son non trié, oui. Mais macro, pas forcément. C'est-à-dire que. Macro, dans, tel que je l'entends, tel que je le comprends. C'est d'abord spatial quoi pour
oui,
moi.
C'est
d'abord
c'est
grand quoi.
Oui.
Et c'est pas forcément grand, je crois que il n'y a pas d'idée de son qui viendrait de loin ou je sais pas quoi.
Oui.
C'est tout à fait indépendant. Par contre, c'est une écoute non consciente, c'est-à-dire c'est toutes sortes de sons qui arrivent à l'oreille dans lesquels je peux puiser, mais je ne le fais pas parce que je suis en acte, j'ai certaines préoccupations, j'ai certains handicaps, ou j'ai certaines activités, ou j'ai un certain... Voilà, les gens qui ne peuvent pas bosser sans avoir la radio, ben, ils se créent un milieu sonore. Parce que, voilà, et qui masquent d'autres sons, etc., qui, de la même façon qu'on se crée une lumière, ou qu'on se crée une espèce de matière pour l'oublier, mais qui nous enveloppe, qui nous protège et qui soutient notre activité, quoi.
Un peu comme regarder la télé allongée dans sa baignoire.
Un peu comme quand ?
Regarder la télé allongée dans sa baignoire.
Bah, le bain, moi je parle de bain sonore, ah, c'est voilà, un bain sonore. Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas une porosité aussi dans chaque écoute ? Parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir ce que vous appelez une écoute paysagère, sans que cette écoute-là soit elle-même influencée par l'écoute médiale, c'est-à-dire toutes les différentes... Les postures qu'on peut avoir sont imprégnées
depuis
des autres.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Ouais.
Et quand on intervient dans consciemment, de façon sonore, pour accompagner les sons qui nous entourent, comment on classifie ça à ce moment-là?
Eh bien, il y a trois façons d'agir. Soit tu agis sur l'environnement, soit tu agis sur les trois. Non, mais voilà, en effet, je pense que quand on crée une interaction sonore, parce qu'on prend la parole, ou parce qu'on se met à battre avec d'autres gens, ou parce qu'on se met à marcher dans le même rythme sur le trottoir que la personne, ou parce qu'on fait silence au moment où quelqu'un parle, enfin, toutes sortes d'interactions, de 10 000 choses du quotidien auxquelles on... Alors, des fois, on n'y pense même pas. C'est-à-dire que pour toutes ces choses-là, nos recueils d'anecdotes, qui est une autre technique, mais on recueille des anecdotes, des petites observations minuscules rédigées en trois phrases, etc., nous sont extrêmement riches pour ça. Mais les effets de parenthèse, par exemple, le premier exemple, je crois, qu'on racontait, c'est on est en train de discuter tous les deux et tout, on prend la voiture, j'ouvre la portière, tu montes à côté de l'autre côté. On a arrêté de parler pendant 15 secondes pour rentrer, fermer les portes, etc. La conversation continue exactement comme si rien ne s'était passé. Ça, on a appelé ça effet de parenthèse. Bon, ben, c'est une interaction où on arrête de parler pour pouvoir continuer la conversation. On ne peut pas dire que c'est conscient, on reste dans le milieu sonore, quoi. Par contre, ce que je dis te plaît pas, et tout ça, tu me coupes la parole pour dire « Attendez, là, c'est pas possible ». Non, là tu agis de façon. Ça perturbe le truc, on est obligé d'écouter, tout le monde se met à l'écoute, tout le monde bascule dans une écoute que je qualifie d'environnementale.
Quand on marche dans la rue, avec quelqu'un, on se met au même point que souvent, c'est un même inconscient.
Tout à fait. Mais ça peut être très conscient.
Oui, oui, bah oui, on fait des rythmes et tout, mais souvent c'est même pas conscient.
Si j'ai envie de te draguer, c'est...
C'est pour ça qu'il a la chance, c'était pas...
Mais toi, tu vas croire que c'est... Non, c'est tout naturel. Donc, après, ça va... Tout à coup, tu vas t'en rendre compte ou pas. Et là, soit j'arrive à te faire basculer dans un truc paysager et c'est une idylle formidable, soit c'est un échec.
C'est pourquoi je crois que dans tout ça, je ne sais pas, parce que je me suis arrivé, je n'ai pas entendu ta communication. Si la notion de rythmicité, je prends le rythme, tu l'as abordé.
Ouais.
Parce qu'après, effectivement, se crée dans tout, je pense, dans tous ces niveaux verticaux, ces modes rythmiques plus horizontaux qui finalement donnent un peu la circonférence de l'émotion, du vécu de l'instant, qui est essentiellement rythmique.
Il y a plein de termes et de choses qui touchent des phénomènes, enfin, qui empruntent à un vocabulaire. Descriptif temporel. Alors, j'ai plus tout en tête comme ça, mais je tombe sur les critères justement liés vraiment à la posture paysagère. Parce que là, souvent, c'est quand même très très déterminant, puisqu'on est dans des choses qui vont du côté de l'esthétique, donc de la composition, donc, etc. Et donc, la composition sonore, c'est du temps avant tout. Et comme par hasard, dans les critères que j'avais appelés de réflexivité, il y avait symphonie, schizophonie et eidophonie. Et ben, symphonie, c'est sain, c'est le sun, c'est ensemble. Hein, c'est bien, c'est la métaphore musicale, bien sûr, mais c'est lorsque deux mondes, deux qualités phoniques se mettent ensemble pour faire un troisième. La schizophonie, ça a été pour nous une manière de désigner des situations qu'on a trouvées dans les trois villes qu'on avait analysées. On avait pris des villes de bord de lac, quoi, et on avait un fragment sonore sur le bord de lac dans les trois villes. Et dans les trois cas, on a trouvé plusieurs personnes, c'était pas général, mais qui jouaient avec les colonnes et disaient c'est incroyable, on est... Ah là, je me tourne vers le lac. Là, j'ai vraiment la ville derrière, et puis d'autres qui disaient sur le même fragment sonore... Là, on est devant la ville, et c'est très drôle, on a le lac derrière, quoi. Et donc, on avait des façons d'interpréter le même fragment qui étaient inverses. Mais le résultat était le même, c'est que ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas écouter le fragment ensemble. Forcément, on prenait une posture, soit en privilégiant la ville par rapport au son des mouettes et des bateaux, des trucs qui sont des petits cliquetis discontinus, et qui sont très paysagers au sens représentationniste du terme, soit les gens faisaient le contraire, disant putain, il y a le lac, etc. Puis en plus, on entend que c'est à la ville, quoi. Puis pour d'autres, non, il y a la rumeur de la ville qui masquait les petites mouettes et tout. Et d'autres, c'était la mouette. Et donc, on a parlé de schizophonie, et ça allait même plus loin, je me rappelle, dans la définition du terme, il faudrait reprendre exactement. Ça permet de désigner des situations donc, qui sont. Générique, en fait, il y a plein de situations dans lesquelles on est entre deux espaces sonores. Ça veut dire que c'est des structures sonores dans lesquelles il y a deux univers qui s'affrontent. Et puis, on a les deux qui arrivent aux deux oreilles. Et du coup, on ne peut pas rester sur le fil. Soit on se tourne vers l'une et on fait un rapport, on crée un rapport figure-fond. Et en décidant. Mais il peut être inversé, quoi. Et alors, ça allait plus loin parce qu'on avait... remarqué après, ou prétendu remarquer, parce qu'après ça fait bien pour les conférences, que, mais moi je l'ai observé quand même, un peu comme j'observe les aveugles contre le mur, se mettre à une certaine distance, et je vois bien que ça marche bien, puis que quand le mur s'arrête, il s'arrête, bon, et bien que les gens, ils cheminaient sur le quai d'Ouchy à Lausanne, qui est justement un quai très très large, qui est une déambulation, une promenade du 19e siècle, etc., entre le lac et la ville. Et eh bien, les gens, ils se mettent à l'endroit où, tu vois, comme s'ils réglaient la balance, et eh bien, ils se mettent un mètre à gauche ou un mètre à droite en fonction du trafic. Quand il y a plus de trafic, les gens, ils se mettent. Alors, c'est des observations, c'est pas mesuré, mais il y a des moments où on a le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça. Et de fait, moi, je trouve sur les bords de mer, sur des bords de route, on va se caler à un endroit, ne serait-ce parce qu'on converse avec quelqu'un, tout ça, pour qu'il y ait cet équilibre qui se fasse. Donc schizophonie, à la fois au sens de séparation entre deux phonies, et en même temps, de, sur le corps, sur le comportement, on va se positionner à l'endroit où il y a cet équilibre-là.
Est-ce que c'est pas à ce moment-là que se crée un milieu dans le paysage ? Est-ce qu'on pourrait le formuler aussi ?
Oui, absolument. Ouais.
Ça, c'est pas son nom.
Absolument.
Mm-hmm.
Et ça, dans le logement, alors, puisque vous travaillez apparemment plus sur de la domesticité, ou quand tu dis architecture, je sais pas, enfin, sur du bâti, c'est extrêmement prégnant. Hein, c'est-à-dire que là, on a eu quand même beaucoup, beaucoup d'anecdotes, de choses sur la façon d'ouvrir la fenêtre. Pour avoir une modulation entre le son intérieur et le son extérieur, sur l'équilibre entre la pièce qui est sur cour et la pièce qui est sur le boulevard. Donc une pièce qui est très bruyante, mais où c'est absolument pas dérangeant parce que la pièce à dormir, ou l'autre, au contraire, elle est très silencieuse, mais il y a un contraste très très fort. Moi, je pense que ça, c'est un critère de qualité important du logement, mais je dérive sur d'autres choses. Mais c'est pas de tout isoler en soi, c'est d'avoir des ambiances sonores de nature différente dans le même logement. Il n'y a pas de raison de chercher à avoir tout pareil. Et ça, je pense que c'est un critère de confort.
L'eidophonie, qu'est-ce que c'est ?
Eidos, c'est l'essence. Donc là, ça devient presque mystique. Quoi. Mais il y a beaucoup de situations où les gens vous racontent des expériences presque mystiques ou des émotions à l'écoute de certains fragments sonores en disant mais voilà, c'est du charawaji, comme on dit dans notre vocabulaire des faits. Quoi. Et donc l'eidophonie, c'est ce moment où on a le sentiment, en étant dans le fragment sonore ou dans le paysage sonore et extérieur à la fois, que tout à coup ça se met à coller à l'essence du lieu ou de la situation. C'est pas forcément l'essence du lieu, c'est aussi l'essence de ce qui est en train de se passer pour soi. Tout à coup il y a cette espèce de... On touche l'essence de quelque chose par l'oreille, et sans savoir si c'est nous qui tendons l'oreille.
Ça rapproche un peu de l'expérience qu'on a vécue de Michel Henry, qui est venu une air marine. Enfin, ça rentre par certains, pour retester comment vous pouvez entrer en contact comme ça, Mathias.
J'ai pas compris de quoi il s'agissait, mais vous l'avez vécu.
Il faudrait donner des exemples.
Le paysage sonore ou le milieu sonore, c'est absolument inséparable finalement de la personne qui le vit. Par contre, l'environnement sonore, comme vous parlez d'écoute, en fait, à chaque fois de posture d'écoute, l'environnement pourrait à la fois en séparer aussi entre posture d'écoute et ce qui est mesurable, parce que par exemple, un niveau sonore, ce qu'on perçoit d'un niveau sonore et ce qu'on mesure, ça n'a souvent rien à voir.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler là d'environnement sonore, ou est-ce que c'est vraiment ce que vous dites, les écoutes ?
Ouais, ça ne marche pas, mon truc. Je voulais remontrer un truc. Et puis du coup, je vais oublier ce que vous venez de dire. Voilà. Ça y est, ça m'a fait penser à autre chose. Il faut recommencer.
Que je redise.
Oui, j'arrive plus à remettre le... J'ai pensé à autre chose.
Enfin, qui a à voir, en fait. De posture d'écoute, ouais. À chaque fois, donc environnemental, mental, paysagère, on voit à chaque fois dans le milieu et le paysage qu'il s'agit toujours forcément du sujet, donc qui perçoit, rencontre entre le sujet et le modalité de rencontre, mais par contre, l'environnement, quelque part, c'est aussi chose qui environne, on peut l'extraire. Et du coup, on peut à la fois avoir une écoute environnementale, effectivement, entendre un niveau sonore référé à soi, sa perception, qui va complètement différer de la mesure qu'on va pouvoir faire avec un appareil.
Oui. Non, mais c'est pour ça que quand je dis environnement, il ne faut pas le réduire à la mesure. C'est éventuellement mesurable. Mais vous voyez, quand vous regardez simplement les critères qui sont là, l'échelle, l'orientation, la temporalité, alors l'échelle, on pourrait dire oui, ça peut se mesurer. Mais c'est une échelle quand même qualitative, c'est des ordres de grandeur, c'est une échelle au sens échelle relative, quoi. Du petit par rapport au grand, de l'ouvert par rapport au fermé, des choses comme ça. Le degré de publicité, c'est compliqué à mesurer, quoi. Alors, les sociologues peuvent donner des critères, des choses, etc. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement... Par contre, on va bien vers de l'objectivation. Bien, le degré de naturalité, vous allez me dire, mais non, c'est pas du tout objectif. C'est pour ça que c'est d'ailleurs du côté de la dimension paysagère de ce niveau sémantique-là. Mais c'est quand même un critère sémantique ou culturel. C'est-à-dire que la naturalité des sons émis dans l'espace public ou dans l'espace domestique n'est pas la même dans telle ville ou dans telle autre ville, dans tel ou tel lieu. Par contre, dans ce lieu-là, on va tenir pour naturel de faire encore du bruit à 10h du soir. Mais dans cet autre milieu-là, pas du tout. Et donc, c'est objectif, c'est partagé, c'est collectif. Mais c'est vécu comme ça. Mais ce n'est pas forcément de l'ordre de la mesure. Par contre, c'est un fait objectivable.
Et qui peut varier aussi.
Et qui va varier suivant la culture, suivant la situation, etc. Mais même quand vous prenez le registre de la mesure, un effet de réverbération, là, je l'ai laissé réverbération, c'est un terme d'acoustique, il vient de l'acoustique. Et en acoustique, il y a une définition parfaitement rigoureuse qui entre dans l'ordre de la mesure. Mais dès qu'on travaille avec des historiens des sciences et des techniques, qui expliquent tout de suite que ben, la mesure d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la mesure d'il y a 20 ans, qui n'a rien à voir avec la mesure d'il y a 100 ans. Que donc ce qui était objectif il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ou ce qui est objectif aujourd'hui, même dans les sciences les plus dures et de la mesure, cette objectivité évolue, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse de dire pour cette écoute environnementale, c'est pas dire que c'est mesurable en tant que tel, mais que c'est objectivable dans certains groupes culturels, quoi. Mais c'est culturellement objectivable, toujours par rapport à une culture, qui peut être une culture technique. Mais même dans la culture technique, la mesure, elle va changer, et elle va évoluer.
Objectiver justement, c'est critiquable aussi, mais à objectiver les perceptions par rapport
au niveau. Et je pense justement, enfin là, ça permet de toucher un point très sensible. Hein. C'est pas critiquable aussi, quoi. Ça n'est pas, pour moi, une attitude objectivant. Je pense que c'est des mouvements, c'est des dynamiques, c'est des façons de s'approprier, de se représenter le monde, qui sont différentes, mais qui sont tout aussi légitimes l'une que l'autre, quoi. La perspective, mais simplement, tous les grands scientifiques, hein, il n'y a que dans les sciences sociales qu'on croit que l'objectivité existe, mais dans les sciences physiques et tout ça, tous les gens savent très très bien qu'ils cherchent, l'objectivité est un horizon, ils cherchent à objectiver le plus possible, à vérifier, etc., mais ils savent très bien que ce n'est pas vrai, que la vérité d'aujourd'hui, elle va changer, parce qu'il y aura une nouvelle théorie qui fondera, etc., quoi. Et ça, c'est d'ailleurs passionnant. Mais c'est la même chose dans une démarche artistique, quoi. La démarche et en plus, elle est paradoxale, parce que la démarche de subjectivation maximale de l'intériorisation, de la production, de la création autonome, personnelle, etc., ben, en même temps, vous savez très bien, si vous êtes honnête, où tous les grands artistes vont vous dire que ils n'ont rien fait, quoi. Ils sont simplement dépositaires de 100 000 autres idées, et puis c'est à travers eux que l'idée elle est sortie. Mais voilà. Par contre, la question de la création, ben, on la retrouve. Elle est la même dans une production artistique ou dans une production scientifique ou dans une production d'un plat de cuisine au quotidien, quoi. Et là, peut-être que pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait invention, eh ben, ce genre d'outil conceptuel est une bonne façon de se représenter. Voilà, c'est le troublant, là. Quand on arrive à mettre en corrélation les trois dimensions, tout à coup, il y a peut-être quelque chose qui émerge, puis qui nous surprend un petit moment, quoi. Mais qui va retomber dans notre milieu très vite, si c'est trop connu.
Ouais. Voilà, on n'a pas épuisé le sujet, évidemment.